Je vous dis merci d'être avec nous. On est en osmose, évidemment. Et nous allons retrouver par Skype Alain Marbeuf aujourd'hui, qui est conférencier URSI, l'Université Rose-Croix Internationale, car nous allons parler d'un personnage légendaire, mais qui a peut-être existé finalement, puisqu'il s'agit de Quetzalcoatl. Est-ce que vous m'entendez, Alain Marbeuf?
Oui, tout à fait, Serge. Je vous entends très bien.
Bon, ben moi aussi, je vous entends, figurez-vous. Enfin, quelque chose qui marche aujourd'hui. On oui. A eu une matinée difficile à la radio avec la technique aujourd'hui. Alors Alain, vous êtes conférencier URSI. Et nous avons décidé de parler aujourd'hui, comme c'est marqué sur cette vidéo, de Quetzalcoatl, l'homme dieu des anciens Mexicains. Quetzalcoatl, on le connaît parce qu'on le voit souvent. C'est un personnage, vous savez, autour des calendriers aztèques ou mayas, c'est ça, hein, on le voit dans pas mal de films.
Tout à fait, oui.
Donc c'est un personnage un peu célèbre dont on va parler aujourd'hui. Alors, est-ce que il a existé ou est-ce que c'est une vraie légende?
Première question. Il y a une intrication de plusieurs choses, un mythe, un personnage mythique. Un roi qui a probablement existé, un chef de tribu, et puis ils se sont assagis, ils se sont civilisés, comme on dit parfois, et ça se passe dans un peuple de l'ouest à l'ouest de la capitale actuelle du Mexique, à Tula, donc et en langue locale nahuatl, Tolan. Alors personnage qui est devenu un mythe. Et en même temps, il y a eu une fusion avec un dieu du panthéon mexicain. Un des dieux importants d'ailleurs, parce que finalement, alors que d'autres dieux sont pour des sacrifices humains, vis-à-vis de prisonniers de guerre ou de jeunes élevés dans ce but assez macabre, en quelque sorte, pour nous autres occidentaux, Quetzalcoatl, c'est le dieu de la tolérance, de la fin des sacrifices humains.
Voilà, c'est étonnant parce qu'on associe justement Quetzalcoatl et les Mayas, tout ça, au sacrifice humain. Donc lui, c'était le contre-courant de l'époque.
Oui, tout à fait. C'est d'accord. Le contre-courant. Et alors, au niveau des origines, c'est très ancien, puisque finalement, on le trouve déjà dans la ville de Teotihuacan, qui se situe San Juan de Teotihuacan, c'est au nord de Mexico, la capitale actuelle de l'État mexicain. Teotihuacan, c'est en langue nahuatl, ça veut dire le lieu où sont créés les dieux.
Ah oui, d'accord.
On le retrouve là, puis ensuite. Alors ça, c'est, disons grossièrement, c'est moins l'an 100 et jusqu'à 700. Et puis plus tard. Il va y avoir d'autres peuples qui vont prendre ce dieu-là dans leur panthéon, dans leur culte, dans leur religion, et ce sont notamment les Aztèques qui avaient pour capitale Tenochtitlan, c'est la capitale actuelle du Mexique.
Mexico.
Et puis enfin, on le retrouve aussi chez les Mayas, parce que les habitants de Tolan, quand ils se sont développés, quand la ville s'est développée, le royaume, ils sont allés coloniser même le pays maya, notamment le Yucatan mexicain. Et c'est à ce moment-là qu'on le retrouve sous un nom maya de Kukulkan. Mais d'accord. C'est le même dieu.
Alors, juste une petite question sur le lieu. Vous parlez de Tulan. Est-ce que c'est un rapport avec le Tulum qu'on connaît?
C'est un site maya qui est sur la côte est ou nord-est du Yucatan.
D'accord.
Un petit peu à, disons, à quelques centaines de kilomètres de la frontière avec le Honduras.
D'accord, voilà. Parce que c'est, il y a beaucoup de légendes aussi. Il y a aussi beaucoup de légendes là-bas autour de Tulum. Donc, pour resituer l'histoire, on est donc entre Tolan, Teotihuacan et Tenochtitlan, qui est Mexico aujourd'hui. L'époque, c'est les Toltecs, c'est ça? Parce qu'on parle beaucoup des accords Toltecs en ce moment. Donc là, on est dans cette période. Vous parlez de 900 à peu près après Jésus-Christ.
Oui, c'est ça. Alors, les Toltecs, en fait, cela veut dire les sages, dérivé du Nahuatl, ça veut dire les sages. Pour les différencier des peuples qui étaient nomades, qui étaient plus sauvages, qui étaient appelés les Chichimecs. Donc, en fait, l'arrivée mythique de Quetzalcoatl, ou l'arrivée historique, on ne sait pas faire la différence, c'est le passage justement d'un peuple qui était Chichimec, qui était sauvage, qui était nomade, à un état de civilisation plus avancé, fixation, création de villes. Et à ce moment-là, d'ailleurs, il y a une chose qui est très intéressante avec Quetzalcoatl, c'est qu'on peut faire une correspondance avec ce qui s'est passé chez les Égyptiens avec Thoth, chez les Grecs avec Hermès, c'est-à-dire c'est le dieu civilisateur. Donc on va retrouver Quetzalcoatl comme étant le fondateur de l'artisanat, de l'écriture, de l'architecture, de l'agriculture, en fait tout ce qui fait qui traduit en fait le fonctionnement d'une société développée, quoi,
Oui.
développée.
Bon, on sait que les Mayas, les Aztèques étaient très développés, hein, même en
Oui,
astrologie, en mathématiques.
tout à fait.
Donc, ces Toltecs, c'est une histoire, Quetzalcoatl, qui a remonté les siècles, hein, puisqu'on en parle encore aujourd'hui. Il est connu, ce dieu serpent à plumes. Mais au fondement, il y a vraiment un roi réel, parce qu'il y a une légende. Vous allez nous la raconter, non, avec le radeau, la croix, tout ça là. Il serait arrivé de
Oui.
quelque part, mais est-ce qu'il a existé concrètement? Est-ce qu'on a des traces archéologiques de ce personnage? Je parle du roi, hein, qu'on a appelé après
Le roi,
Oui.
non. Le roi, non. En fait, toute l'histoire précolombienne est basée sur un calendrier qui est renouvelé, je dirais un calendrier solaire et un calendrier lunaire. Et en fait, les grandes époques sont toujours repérées par rapport à cette coïncidence entre les deux calendriers, ce qui fait 52 ans. Donc, on a déjà une grosse incertitude qui fait déjà pratiquement qui fait un demi-siècle, et on n'a pas d'informations historiques puisque ces calendriers sont basés juste sur des noms de jours. Et dire par exemple le premier jour de l'année c'est un roseau, c'est à quatre, c'est vague parce que ça peut être l'an, je dis n'importe quoi, l'an moins 500, ça peut être l'an moins 300, l'an plus 100, c'est
Oui.
par rapport au calendrier chrétien. Donc c'est difficile à dire, c'est difficile à dire.
Puis ça remonte
Et
à
on n'a pas de
moins
traces,
et
on a simplement des codex, c'est-à-dire des objets faits sur sont des papiers, on pourrait dire, végétaux, cousus, ça fait des longs rubans, un petit peu d'ailleurs comme à la même époque, à d'autres époques, ça s'est passé en Égypte, les papyrus,
les rouleaux, oui.
bon. Sauf que là, on a des points de repère pour l'Égypte, parce que par rapport à la colonisation qui met fin à l'empire égyptien, en remontant petit à petit, on arrive à avoir des bonnes informations. Et là, ce n'est pas le cas.
D'accord.
Les
Il
seules
faut dire que les
informations, ce
Espagnols
sont des...
ont détruit beaucoup des écrits, des textes.
Tout à fait.
Ils ont
Tout à
voulu
fait.
éradiquer les images et l'histoire, un peu la cosmogonie, toutes leurs histoires, leurs croyances.
Oui.
Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on galère, qu'on ne trouve pas
Oui,
d'éléments.
et même les temples, les lieux de culte, la plupart, notamment au niveau aztèque, ont été détruits, ce qui fait que quand ou recouvert et recouvert ensuite d'églises, le terrain aplani, ce qui fait que par exemple dans les années 60, quand dans la capitale mexicaine, on a construit une puis deux lignes de métro pour préparer les Jeux Olympiques de 1968, on a trouvé des temples aztèques dans le sous-sol. Ce qui fait qu'il y a, il y a une station de métro à Mexico où il y a une pyramide
Souterraine.
presque sur le quai du métro. C'est extraordinaire. Alors, chez les Mayas, la même chose. Alors là, c'est plutôt l'abandon de la société qui fait qu'on a trouvé des villes abandonnées. Et en plus de cela, pour l'écriture maya, elle a été vraiment complètement déchiffrée qu'en 2008, quoi. Vous voyez, donc c'est tardif.
Mais
Elle
alors,
est aussi complexe, l'écriture maya, que l'écriture égyptienne, quoi, si on peut dire.
concentrons-nous sur Quetzalcoatl.
Oui.
L'histoire, c'est quoi? Parce qu'il y a quand même la légende c'est un roi qui arrive sur un radeau, je crois, non? Il y a une
Oui,
histoire comme
alors
ça,
il arrive
puis
par
il y a une
l'est,
croix.
il arrive de l'est,
Oui, voilà.
sur un radeau, tout à fait.
Et il vient d'où? On sait un petit
Alors,
peu ce que c'est le mythe
rien n'est
d'où.
dit,
On ne sait
rien n'est
pas.
dit.
Il
Et
vient
c'est là
d'une autre
que
planète ou?
intervient dans cette légende le fait qu'il va y avoir une réunion de trois personnages. Celui qui arrive sur le radeau, celui qui le recueille, qui s'appelle Akatl, le roseau. Ils arrivent dans un village, on ne peut pas trop parler de capitale encore. Ils arrivent donc à la future Tolan. Et là, il y a le chef de ces sauvages-là, de ces Chichimecs, qui s'appelle Tolpitzin, qui est le chef de guerre en quelque sorte. Donc il va y avoir convergence entre les trois personnages. Et par la suite, il n'y aura plus de distinction entre les trois. Et donc il y aura création d'une sorte de trinité divine. Quetzalcoatl, c'est celui qui arrive de l'Est. Seacatl, c'est celui qui est au Sud. Et Tolpitzin, c'est celui qui est au Nord. Donc,
D'accord.
on a déjà une orientation associée à ces trois personnages mythiques qui forment en quelque sorte
Un
un
trio.
dieu unique trinitaire.
Ah oui, donc ces trois personnages, mais en fait, ils n'en font qu'un. Akat,
Oui,
Quetzalcoatl
alors
et Tolpitzin.
au début, ils sont séparés. Et c'est ensuite qu'il va y avoir, par exemple, lors d'une guerre qui se passe mal avec les tribus voisines sauvages, les tribus voisines chichimèques, Seacatl, par exemple, il entre en extase, en quelque sorte, et c'est là qu'il y a l'union avec Quetzalcoatl. Et ensuite, il va disparaître puisqu'il s'immole par le feu. Donc, Quetzalcoatl, il arrive par la mer, l'épreuve de l'eau. Seacatl, c'est l'épreuve du feu. Et Tolpitzin, donc le nord, l'absence de lumière, très terre à terre, c'est le côté terrestre, on pourrait dire, de ce triptyque divin.
D'accord. On a quand même de la trahison aussi là-dedans, hein. Tout se passe pas.
Comment?
Il y a aussi de la trahison dans tout ça. Tout se passe pas
Oui, tout
merveilleusement.
à fait. Il y a la trahison parce qu'effectivement, en tant que chef militaire, Tolpitzin, il se dit, moi, je peux laisser faire les choses. Et il laisse partir. C'est là justement la deuxième expédition. Il laisse partir Quetzalcoatl et Akatl et ça se passe mal. Ça se passe mal. Et là, il a des remords. Donc, il se repent et il vient avec l'armée pour les récupérer et les sauver. Voilà
D'accord. Alors, on parle d'un homme-dieu, de quelqu'un qui ressuscite, d'une
Oui.
trinité. Il y a quand même peut-être des petits parallèles à faire avec nos religions, non?
Oui, tout à fait
C'est
avec le
étonnant.
christianisme.
Ben oui.
Avec le christianisme, parce que d'abord il y a cet aspect de trinité, de trois dieux en un seul, en quelque sorte. Il y a le fait que il y en a un qui est le Akatl qui se sacrifie. Donc il y a un sacrifice, ça fait penser à la passion volontaire du Christ dans le christianisme. Il y a également cet amour sans borne de Quetzalcoatl pour l'humanité, d'abord pour ses sujets, puis ensuite pour l'humanité. Et annonçant d'ailleurs, et c'est là autre point commun, qu'il partira. Mais il reviendra. Donc il reviendra un petit peu comme le Messie dans le christianisme et d'ailleurs dans l'islam. D'ailleurs, on peut faire le parallèle. Autre point, c'est la croix. Le symbole de la croix est vraiment prégnant, vraiment important dans tout cela. On pourrait dire que c'est à la fois un symbole et un étendard, puisqu'il arrive sur son radeau. Il a une croix sur le radeau et il va repartir de la même façon, attaché sur cette croix. En même temps,
Alors la croix,
donc on
c'est
voit
très
quoi
très
ça vaut.
symbolique.
Oui, c'est très symbolique. Alors c'est tellement symbolique d'ailleurs que notamment chez les Mayas, il y a le dieu maïs. Et vous savez que le maïs est une plante qui est importante pour la nourriture dans toute l'Amérique, on pourrait dire, depuis l'Amérique centrale jusque pratiquement en Argentine et une partie du Chili. Donc le maïs, c'est l'exemple de cette union entre le haut et le bas. C'est une plante donc qui a ses racines, la terre. Il va vers le vers la vers, il a la tige. Il va vers le ciel. Et alors ses feuilles, on peut pas parler de branches. Les feuilles, lorsqu'elles commencent à s'ouvrir, ça se situe vers l'horizontale. Donc tout naturellement, les Mayas l'ont considéré comme un exemple de croix. Et à Palenque, il y a un temple qui est le temple du dieu maïs, avec justement un bas-relief représentant le maïs. Et on le sait, puisqu'on connaît la signification des hiéroglyphes mayas.
Je crois que justement, le maïs, bon, c'est la source principale de nourriture, mais je crois que dans leur légende, alors je mélange un petit peu moi les Mayas, les Aztèques, c'est un peu compliqué, mais le sang de l'homme, quand les dieux ont créé les hommes, c'était du maïs, non? Il sert aussi à la création de l'homme, le maïs. Je sais pas si c'est le sang ou la
Oui,
chair, ou il y a
oui.
quelque chose comme ça qui.
Alors, chez les Aztèques qui ont privilégié des cultes autres que celui de Quetzalcoatl, notamment en l'honneur du cinquième soleil, le soleil qui était le soleil actuel, leur soleil actuel à l'époque de la conquête coloniale espagnole. Ce dieu soleil, Tonatiuh, il avait besoin d'énergie. Et l'énergie, pour les êtres humains, c'est symbolisé par le sang. C'est un symbole de vie, le
Eh
sang.
oui.
On le retrouve dans beaucoup de religions de ce point de vue-là. D'où des interdits dans certaines religions vis-à-vis de la consommation du sang, etc. Là, c'était le contraire. Chez les Aztèques et chez les Mayas également, il fallait des sacrifices humains, c'est-à-dire produire de l'énergie pour que le dieu soleil puisse continuer à éclairer les hommes.
Le monde. Alors, pour revenir concrètement à Quetzalcoatl lui-même,
Oui.
c'est un personnage intéressant parce que moi je découvre au fil de votre conférence que bah lui il aimait pas les sacrifices humains justement.
Oui,
Il
tout à
aimait
fait.
l'humain. Il avait un rapport très très différent quand même, très très humain, j'allais
Oui,
dire.
exactement. Il était dans la tolérance. Il était vraiment de ce point de vue-là, de ce point de vue-là, il est très proche en ce sens-là. Il est très proche du christianisme. Et alors, je pense que c'est pour cela que les missionnaires qui étaient dans les fourgons des inquisiteurs. Et je pense à deux personnages célèbres, dont l'un était un franciscain, San Bernardino de Sahagún, qui a passé toute sa vie à essayer de conserver les quelques vestiges qui n'avaient pas été détruits par les conquistadors, et ces vestiges sous forme de codex. Et il en a même fait réaliser d'autres, dans la mesure où il était en relation avec des anciens, des Aztèques qui étaient bilingues. Et lui-même a appris le nahuatl et il a fait un dictionnaire trilingue latin-espagnol-nahuatl.
Ah
Et
oui.
dans son livre qui s'intitule en fait le des choses, son histoire en général, des choses de la Nouvelle-Espagne, Sahagún donne des informations, et c'est pour cela qu'on connaît très bien, la langue nahuatl. On a pu faire le décryptage des bas-reliefs, des hiéroglyphes qui sont sur les pyramides mexicaines, sur les qu'il s'agisse des Aztèques ou des Toltèques. Toltèques, quand je parle de Toltèques, je parle de Tolan et de son fameux temple avec ce qu'on appelle les Atlantes. Ce sont des gigantesques statues de 4,60 m. Je peux vous dire que lorsqu'on est au voisinage de ces statues, on se sent petit. Et c'est très impressionnant, c'est du basalte, c'est-à-dire la roche volcanique de la région, et c'est très imposant.
Alors San Bernardino de Sahagún était complètement fan des Toltecs, hein, si j'en crois des textes que vous m'avez partagés, où il dit les Toltecs étaient sages, leurs œuvres étaient toutes bonnes, toutes parfaites, toutes admirables, toutes merveilleuses, ils ont inventé l'art de la médecine, ils ne tarissent pas d'éloges, hein.
Oui, tout à fait, tout à fait. Ben, c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte, qu'il y avait une certaine proximité dans le culte de Quetzalcoatl avec le christianisme, et ce qui fait que tout naturellement, d'ailleurs, actuellement, on le voit très bien lorsqu'on va au nord de la capitale, au Mexique, qu'on va à Notre-Dame de Guadeloupe, qui est un lieu de pèlerinage, un petit peu comme le Saint-Jacques de Compostelle pour l'Occident médiéval ou même actuel, Notre-Dame de Guadeloupe, en fait, c'est le fait que Marie, la Vierge Marie, oui, est associée à, en quelque sorte, à une déesse.
Oui.
C'est notre mère, c'est une déesse mexicaine.
Sihuacuac, si j'en crois votre...
ou Tonantzin. C'est un peu difficile à prononcer, c'est pour ça qu'on essaie de... Par contre...
Alors c'est marrant parce qu'il y a vraiment des rapprochements.
On retrouve notre grand-mère, c'est-à-dire la mère de Marie, c'est-à-dire Anne. Mm. On va retrouver l'apôtre Jean, on va retrouver l'apôtre Thomas. Il y a beaucoup de coïncidences, et ce qui fait que lorsqu'on assiste à une messe ou à un pèlerinage ou une liturgie catholique au Mexique, on a l'impression qu'il y a du folklore parce que ils sont en costume, les hommes comme les femmes, et c'est très beau. Ce sont des danses avec des tambours, des danses qui viennent à travers les siècles, quoi, qui nous sont parvenus. C'est vraiment très très joli.
En tous les cas, ils ont bien mixé entre guillemets les deux religions, hein, l'ancienne religion avec leur dieu, leurs ancêtres, et le christianisme, oui, des inquisiteurs, quoi.
Tout à fait. Et c'est vrai que toute cette légende sur Quetzalcoatl, et puis les personnages qui s'attachent à lui pour former cette trinité divine, et en même temps mythique, le mythe est bien décrit d'ailleurs par un président du Mexique, José López Portillo, qui était président, bon, si on veut situer dans l'histoire, il était président à l'époque, et c'était d'ailleurs un ami de notre président français, à l'époque de Giscard d'Estaing. Il était président à l'époque où Giscard d'Estaing était président de la République française.
Dans les années 70-80, fin des années 70, donc quelque chose comme ça.
Voilà, c'est ça. Okay. Et López Portillo était en même temps un écrivain. Je dis été parce qu'il a disparu il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans.
D'accord.
Et donc il a écrit ce poème épique qui est écrit en espagnol. On dispose de la traduction française, bien sûr, qu'il y a eu plusieurs éditions. Et ça permet très bien de faire un peu le lien et de démêler un petit peu les chevaux, parce que c'est très complexe,
oui,
de voir ces trois personnages qui fusionnent en fonction des événements, mmh, et en fonction de leur comportement. Et la fin d'ailleurs du la fin du mythe, mais je crois que c'est quelque chose de très poétique et qui mérite d'être dit et souligné, puisque elle indique qu'il arrive sur une plage au bord du Pacifique. Il est décidé, on l'a pratiquement obligé à quitter la ville. Il a eu 52 ans de règne, on retrouve les 52 ans. Il va partir par la mer, donc arrivé par l'Atlantique, il part par le Pacifique, il part à l'ouest, il reprend un radeau, son radeau avec la croix, et il est aidé par les prêtres en quelque sorte du culte, quoi, du culte principal. Et il se met sur sa croix et il s'en va. Donc c'est une très belle légende, très belle
Apparemment,
légende.
il s'en va pas si facilement puisque 3 fois la mer le ramène. Il faut
Oui, tout à
l'attacher à
fait.
la
Trois
croix
fois la
pour qu'il
mer le
puisse
rejette et
partir.
ça, il part au bout de la quatrième fois. Alors moi, je me disais, tiens, ça me fait penser au triple chant du coq
Ah oui,
dans
pourquoi
les
pas.
évangiles. Mais je pense que là, c'est un parallèle un peu osé quand même. Mais bon, c'est assez amusant.
Non, non, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce Quetzalcoatl, que dans l'imaginaire, franchement, quand on s'y arrête pas, on imagine quelque chose de sanguinaire avec les sacrifices humains, on arrache des cœurs, et puis en fait, pas du tout.
Non.
C'est
Alors
un dieu très, très humain, finalement,
chez
très.
les Aztèques, il était le deuxième soleil en fait, le soleil du vent. Et c'est pour ça qu'on le retrouve aussi comme sous un autre nom, comme dieu du vent. En fait, je pense qu'il y a eu une synthèse entre plusieurs dieux dans ces religions-là, des anciens Mexicains. Ils ont utilisé plusieurs dieux, ils les ont fusionnés. Alors c'est le dieu du vent, et puis c'est en même temps la Vénus avec la planète. Faut
Ah oui,
savoir
c'est
que
vrai.
les anciens astronomes mexicains, notamment aux Mayas et au Yucatan avec les Mayas, étaient très doués. Et le calendrier aztèque lui-même, c'est un calendrier avec plusieurs cercles, plusieurs disques, chacun étant lié à une planète. Et au centre, on trouve les quatre soleils. Le deuxième, justement, c'est Quetzalcoatl. Et au centre, le cinquième soleil, le soleil actuel, qui donc aussi, on pourrait dire, si on suit la logique aztèque, notre soleil actuel à nous aussi.
Oh oui, c'est vrai qu'il y a une légende, hein, comme quoi il est sur Vénus ou quelque chose dans le genre, je crois, hein, ou c'est Vénus.
Oui,
C'est
alors
l'étoile du berger
c'est
quelque part.
Vénus qui est l'étoile du matin, qui se lève, il fait nuit encore, là l'étoile se lève, et puis c'est lui qui va donner le signal pour que le jour se lève. C'est-à-dire qu'il va envoyer une flèche
Au soleil.
à Tonatiuh, le soleil, et le soleil va, bon, et ça le réveille, et bon, c'est un petit peu, c'était le Skype du Panthéon mexicain, il lui répond en lui envoyant une flèche,
Bon
voilà.
bah pas mal.
Son tour, et le soleil se lève,
Mais
il
encore une fois, ça
réveille.
rappelle une étoile. Une étoile
Voilà.
célèbre, puisque c'est Vénus, l'étoile du berger, non? Je suis pas.
Oui, c'est ça,
On est dans le même.
oui, c'est.
Encore dans les mêmes. Enfin, il y a encore des liens étranges entre le christianisme et cette religion de
Oui,
Quetzalcoatl.
oui, tout à fait, on peut penser à l'étoile des rois mages,
Bah oui.
avec la naissance du Christ. Les étoiles avaient de l'importance chez les Mésopotamiens. Il ne faut pas oublier que, par exemple, l'étoile Sirius, quand elle avait ce qu'on appelait le lever héliaque, c'est-à-dire qu'on la distinguait vraiment le matin du lever du soleil, c'était le signe que le Nil allait bientôt avoir sa crue et amener les, comment dirais-je, les crues. Donc c'était le moment, par exemple, de préparer le terrain pour les futurs, la culture, quoi. Voilà.
Bon, bah écoutez, c'est intéressant de voir que Quetzalcoatl ressemble un peu à notre Jésus, puisqu'il est lui-même un fils de Dieu qui descend chez les humains. C'est un peu ça quand même, hein? Et puis qui
Oui, tout à
retourne
fait.
ensuite vers. Enfin, on ne sait pas, puisque le bateau s'en va, le radeau s'en va. Donc, on imagine en tant qu'humain
Oui.
matériel qu'il va mourir quelque part en mer. Mais pour les Aztèques ou les Mayas, il s'en va, quoi. Il
Oui,
rejoint
oui.
la
Et
Trinité.
alors, ce qui est amusant, c'est qu'il était considéré comme un homme grand, plus grand que
Ah
que
oui.
la taille habituelle des habitants, et blond, et les yeux bleus. Alors on a voulu voir, on s'est dit, tiens, ce serait pas ce mythe-là du grand homme blond aux yeux bleus qui revient. Est-ce que ce n'est pas l'histoire quelque chose des traces de l'arrivée des Vikings, dont on sait qu'ils sont arrivés en Amérique du Nord?
On
On
en
ne
parle
connaît pas
beaucoup.
trop leurs incursions, mais il y a malgré tout un bas-relief dans le Yucatan, dans la ville de Chichen Itza. Donc un bar sur un temple, le temple des guerriers, et ce temple des guerriers est dans la partie toltèque de la ville, puisque les toltèques ont colonisé, enfin disons, ont influencé, on pourrait dire, les cités mayas à une certaine époque, c'est-à-dire ça se situe à peu près dans les années au début de notre ère, on pourrait dire à peu près ça. Les Toltecs sont arrivés à ce moment-là en pays maya, et on retrouve donc un bas-relief avec. On retrouve aussi, il y a aussi un codex avec des personnages qui sont plutôt grands et qui n'ont pas les cheveux bruns. Donc il y a des choses très curieuses
Ouais.
quand même, hein. Très,
Et
choses très
puis
curieuses.
donc il y a pas mal on voit pas mal des documentaires à la télé où certains pensent que bah ce sont des extraterrestres aussi qui sont venus
Oui,
qui
tout
ont
à fait,
aidé
oui, tout
ces fameux blonds aux yeux bleus, on les appelle les Pléadiens je crois ou quelque chose comme ça. Mais on n'en est pas encore là,
Ben,
apparemment tout
tout à
ça
fait.
était bien terrestre hein, puisque ces gens-là ont bien existé, ils ont mangé du maïs, ils en ont fait notre sang quelque part et ils ont adoré ce dieu Quetzalcoatl, l'homme dieu. Alain Marbeuf, on a fait un peu le tour, on pourrait parler des heures, hein, évidemment, parce que le sujet est
Oui, tout à
immense
fait.
et puis c'est passionnant. Mais je conseille à nos auditeurs de vous chercher, puis de chercher vos conférences aussi. On peut peut-être les trouver.
Alors les conférences normalement elles sont destinées à ceux qui assistent à ces conférences. Les séminaires, c'est la même chose. Et c'est pour ça que une émission comme la vôtre est intéressante, puisqu'elle peut faire connaître à d'autres personnes, là, par la voix radio et par vidéo. Mais il y a également des vidéos qui sont visibles, qui sont visibles et annoncées sur le
Sur le
site
site
national de la
Rose,
morgue ou
Rose.
le site national de l'URSSI. Et ces vidéos traitent des différents sujets que les conférenciers URSSI présentent, hein. Donc,
Rose-croix.org. C'est le
voilà,
site, hein,
c'est
comme
ça.
ça on peut y aller directement. Je vous remercie, Alain Marbeuf. Bonne continuation et puis peut-être à très bientôt pour un autre personnage ou une autre histoire passionnante comme ça de l'histoire du monde, hein, quelque part.
Et je vous remercie pour votre accueil, et bon, pourquoi pas pour une autre session radio, une autre émission. Voilà.
Merci, à
À
bientôt.
bientôt.
Au revoir.
Au revoir.